France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Nathalie Sarraute est une écrivaine paradoxale. Son écriture est tout entière centrée sur l'intériorité, sur ces mouvements imperceptibles et indéfinissables qui sont à l'origine de nos sentiments, de nos gestes et de nos paroles. Pourtant, ce n'est pas sa vie, son intériorité qu'elle révèle. Si tard dans sa carrière, en 1983, elle écrit « Enfance », ce n'est pas à proprement parler une autobiographie. C'est la mise bout à bout de fragments de souvenirs, d'émotions, de paroles que le temps aurait ensevelies s'il n'était pas posé de telle façon sur le papier. En 1977, pourtant, elle décide d'accepter l'invitation de l'écrivaine et critique littéraire Viviane Forester pour l'émission Biographie sur France Culture. S'ensuit un entretien d'une heure et demie, d'une intimité surprenante et touchante. Elle raconte toute son enfance, ses premiers souvenirs de la Russie, sa relation avec sa mère qui finit par l'abandonner, son rapport à son père et à sa belle-mère, mais aussi son chemin vers la littérature. C'est un entretien qui éclaire de mille reflets réciproques l'œuvre et la vie de Sarraute, qui n'a pas tendance à s'épancher sur son passé et son vécu. Un entretien exceptionnel, donc, de la Russie à Paris, de sa lecture de Joyce à sa rencontre avec Sartre, la biographie de Nathalie Sarraute, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 4 février 1977.
Je n'ai jamais pensé, non seulement que je pourrais jamais écrire une autobiographie, ça me paraît tout à fait impossible, mais même parler de moi comme ça, ça j'ai l'impression de quelque chose, de jouer à un jeu auquel je ne suis pas habituée. Et d'un certain côté, ça m'amuse et même peut-être ça me fait du bien, parce que je pense très très rarement à moi-même comme ça, à la fois en tant que personnage. Je n'évoque pas tellement souvent des souvenirs d'enfance, et surtout quand je les évoque, ils sont comme un peu détachés de moi. Il me semble que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, et je ne réfléchis pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup l'habitude de me regarder comme ça. C'est une espèce de manque de narcissisme qui, d'une certaine façon, je crois, n'est pas tellement bon. Il est très bon d'en avoir une certaine dose, pas trop, mais enfin une certaine dose. Mais je pense qu'on se rattrape toujours et que certainement mon narcissisme doit se porter ailleurs. On dit que tous les écrivains le sont, et il se porte ailleurs probablement que sur des détails biographiques de ma vie, de ce qui a pu m'arriver. Depuis les toutes premières images, et il a fallu que je pense un peu à cette émission pour que je les fasse surgir. On me dira immédiatement que je les refoule, mais je ne le crois pas, elles sont toujours là. Simplement, je peux dire qu'elles ne m'intéressent pas énormément. Elles me paraissent, tout ce côté biographique des vies ne me paraît pas avoir ni une valeur exemplaire, ni une valeur quelconque. Il y a des quantités de vie qui ne se sont pas manifestés par l'écriture ou la peinture, etc., et qui, à mon avis, sont incomparablement plus intéressantes que la mienne. J'ai l'impression que je n'ai pas grand-chose à dire. Je dis toujours, je n'ai pas de biographie, si on veut. Et alors, mes premiers souvenirs me viennent davantage de la France. Je suis née en Russie, mais à l'âge de 2 ans, ma mère s'est séparée de mon père et elle est partie en France. Elle avait fait ses études, comme mon père, ses études supérieures à Genève. Elle était bilingue, en somme, et se sentait très très bien, à la fois en Suisse, à Paris, où elle avait beaucoup d'amis. Elle s'est remariée un peu de temps après. Elle est partie, elle m'a emmenée avec mon futur beau-père. Nous sommes partis à Paris. Et à ce moment-là, elle habitait rue Flatterse. Et j'allais à une école maternelle, je m'en souviens parfaitement bien, une école maternelle qui existe encore, ce n'est plus une école maternelle. C'est l'école de la rue des Feuillantines. Je crois que maintenant c'est un collège technique, j'ai vu ça il y a une dizaine d'années en passant devant. Et les souvenirs de cette école maternelle étaient extrêmement tristes. On avait encore des sabots, on marchait à la queue leu-leu pour aller au cabinet. C'était un petit peu une atmosphère de prison, une impression de prison que j'ai gardée de cette école maternelle. Et par contre, j'ai gardé des souvenirs absolument délicieux de moments passés au Luxembourg. Alors, passé au Luxembourg, près des statues des reines, je me rappelle parfaitement où c'est. Quand on regarde le Sénat, eh bien, il y a le bassin qui est devant, à droite du bassin, au pied de l'escalier. Il y avait une statue, je n'ai jamais vérifié si elle y est toujours. Ça se trouve pas loin de cette fontaine, il faut monter des marches pour aller à la fontaine, ça c'est en bas. C'est très ensoleillé, c'était entouré de fleurs éclatantes. Et alors je me rappelle ma mère me lisant à ce moment-là à haute voix des livres d'enfants et puis me racontant des histoires sur l'oiseau de feu. Je l'invente peut-être, mais en tout cas cet endroit du Luxembourg est lié pour moi, je ne sais pas pourquoi, des images d'oiseaux de feu. Alors ça, c'était un contraste très très grand entre l'école maternelle, que je n'aimais pas, et puis le Luxembourg tout ensoleillé, fleuri, etc. Et puis après ça, viennent alors des souvenirs de Russie, parce que quand j'ai eu 5 ans et demi, ma mère est rentrée en Russie, elle a vécu avec son mari à Saint-Pétersbourg, elle m'a amenée avec elle, et à ce moment-là, mon père a immigré, et j'allais passer mes vacances chez mon père, également remarié, et qui lui, à ce moment-là, habitait la France. Et puis alors justement, ma ville natale, Ivanovo, là où je suis née, je n'en ai aucun souvenir jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais dans cette période où ma mère habitait Paris, il a dû y avoir des moments où je venais voir mon père là-bas. Parce que j'ai gardé tout de même le souvenir d'une maison, des images de mon père, de la neige, et qu'il avait fait faire pour moi une sorte de patinoire devant la maison, une sorte de montagne russe. Je descendais en luge, donc j'y venais, certainement pour très peu de temps, parce que je passais mon temps ici. Mais j'ai dû faire des visites à cette ville. Et alors je suis revenue en 65... en Russie, cette ville est une ville maintenant interdite aux étrangers. Nous étions à Vladimir et j'ai vu tout d'un coup Ivanovo. Je dis, j'aimerais tellement y aller, mais enfin, on ne pouvait pas y aller sans visa. On m'a tout de même laissé la visiter très très rapidement. Et j'ai vu que c'est resté comme... J'ai pas eu le temps, je l'aurais sûrement retrouvé, la maison de mon père, parce que toutes ces maisons en bois, avec les petites fenêtres ouvragées, n'ont pas bougé. On a construit des immeubles neufs aux alentours, mais la ville elle-même est cette espèce de ville de conte de fées dont j'avais gardé un souvenir merveilleux. Il y a sur ces fenêtres ouvragées, j'en parle dans le silence, ces petites fenêtres qui sont couvertes, qui sont bordées de sortes de dentelles de bois peint. Alors ça, il paraît que c'est la grande spécialité d'Ivanovo, ça a dû surgir dans mes souvenirs quand il en parle dans le silence. Et ces grandes maisons de bois, j'ai encore la photo de notre maison. Et alors je l'aurais certainement retrouvé. J'aurais retrouvé le cimetière où ma sœur, qui est morte avant ma naissance, a été enterrée. Elle est morte à l'âge de 3 ans. Et je suis née après, je l'ai remplacée ensemble. J'ai retrouvé une photo de moi avec mon père dans cette maison d'Ivanovo et ça m'a tout de suite fait surgir tout un pan de mon enfance qui occupe une place assez grande, n'est-ce pas ? Parce que finalement, c'était une impression extrêmement idyllique de la Russie et c'était une sorte de vraie enfance un peu que peut-être je l'idéalise maintenant. Enfin, je devais y aller. Ça devait être l'époque entre 2 ans et 5 ans, puisqu'à ce moment-là, ma mère était ici, mon père là-bas, et par conséquent, j'allais faire des séjours chez lui, probablement en hiver, parce que c'est lié à l'hiver russe, à une espèce d'impression de vie d'enfant gâté. J'imagine comme une sorte de grande maison où tout était fait pour moi parce que mon père m'aimait énormément, ne s'était pas encore remarié, il n'avait pas d'autres enfants, m'attendait. Et quand j'arrivais, je gardais le souvenir de quelque chose de somptueux, d'énorme, c'était peut-être pas si grand que dans mon souvenir, avec des poupées. Et là, j'ai une photo avec une immense poupée qui parlait, qui disait papa et maman, avec tous les meubles de poupées, préparait toujours des quantités de choses pour moi. Alors je me sentais un peu comme une petite reine, ce qui a été un contraste très très grand avec mon enfance ici. Je l'ai rejoint ici quand il était remarié, et puis où il vivait dans de tout autres conditions. C'est des conditions qui étaient assez pénibles. Les enfants remarquent toutes ces choses et la vie était très dure au début quand il est arrivé ici. Et puis ma belle-mère ne contribuait pas à adoucir cette vie qui était assez misérable, assez et triste dans un quartier qui, à l'époque, le 14e, n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. C'était un quartier triste. Lénine avait d'ailleurs écrit quelque part que c'était une vie très triste qu'on avait là, dans ces petites rues très sombres. Alors à côté, cette enfance qui paraît toute lumineuse, et ces rues blanches, tout est blanc. C'est toujours lié à des paysages de neige. Je devais y aller sûrement en hiver. La vie ici même, rue Flatters, qui n'était pas aussi triste qu'après, puisque je vivais avec ma mère, n'a absolument pas le même caractère de conte de fées qui est resté celui des images de l'enfance à Ivanovo. C'était une nostalgie. Là-bas, en plus, ici, ce qui était triste, quand j'habitais ici avec ma mère, c'était l'école maternelle qui était une sorte de petit bagne d'enfants à l'époque. C'était vraiment, peut-être que j'assombris ça justement par contraste avec la Russie, mais j'ai gardé un souvenir de quelque chose de noir et de triste, et où il y avait une discipline très rigoureuse. Enfin, c'était quelque chose d'assez pénible. Tandis que là-bas, j'étais seule dans cette maison, entourée de gens gentils, et je me sentais très bien. Les gens qui avaient une bonne situation, c'était le cas de mon père là-bas, il y avait énormément de domestiques, il y avait des cochers, qui étaient très gentils. J'ai encore une photo de moi avec une nourrice habillée en costume national. J'ai gardé un souvenir de bonté, de gentillesse. Mais enfin, c'était très factice, n'est-ce pas, comme milieu. Je ne me souviens pas d'enfants avec qui j'ai joué là-bas. Il semblait que j'étais seule à Ivanovo. Enfin, je devais être tout de même assez petite. C'est très difficile de juger d'après quelques personnes, d'établir des différences. L'enfance en France est liée très fortement à quelque chose qui n'existait pas en Russie, c'est-à-dire à une sorte de culture, si on veut. Puisque là-bas, je n'allais pas en classe, et que je voyais en dehors de mon père des gens qui étaient tout à fait incultes. Et alors ici, il y a eu justement l'école et ses contacts avec les professeurs qui étaient d'une importance énorme et qui n'existaient pas là-bas. Il n'y avait aucun travail là-bas. Enfin, je ne faisais rien, je jouais, je m'amusais. Je n'ai pas connu mes grands-parents. J'ai un très très vague souvenir de la mère de mon père. Je devais être très très petite quand nous sommes allés la voir, mais c'est un souvenir tellement, tellement presque effacé que juste d'un moment où elle était sur le perron et nous arrivions, mais je ne me souviens pas d'elle du tout. Par contre, alors la mère de ma belle-mère a joué un rôle très important dans mon enfance. Elle a passé ici 3 ans, je crois. Elle est restée, j'avais entre 10 et 13 ans. Entre 10 et 13 ans, elle est restée ici chez mes parents et j'avais une très grande affection pour elle. Et c'était quelqu'un de tout à fait charmant, de très cultivé, qui s'est beaucoup occupé de moi. Alors ça, oui, elle a joué. Mais ça, c'était à Paris. Ça a été vraiment, ça a éclairé ces années sombres de la rue Marguerin et de la rue Adolphe Faucillon, là où nous étions. Mon père vivait ici dans un milieu d'émigrés qui étaient tous groupés là autour de l'église de la rue d'Alésia et ils allaient dans ce café du Lion de Belfort où je crois que mon père jouait aux échecs là-bas avec... Il m'avait dit un jour qu'il avait joué aux échecs avec aux dames, où il était très fort, avec Trotsky. Et puis il y avait Bourtsev, il y avait tout ce milieu d'émigrés russes qui vivaient groupés dans ce quartier du 14e, qui n'était pas du tout comme il est maintenant, qui était un quartier dont j'ai gardé un souvenir de grande tristesse, un peu morne. Mais mon père travaillait énormément, c'était un grand travailleur. Alors il sortait peu le soir et il travaillait toute la journée. Alors nous ne menions pas du tout une vie sociale, enfin, on voyait peu de monde finalement, quelques amis qu'il avait. Et la plupart étaient des Russes. Ce sont les souvenirs d'enfance qui me restent de la première enfance. Et puis cette enfance a été véritablement brisée au moment où ma mère, qui à ce moment-là, elle était mariée avec un historien, il devait partir faire un voyage en Autriche-Hongrie. Il avait reçu une sorte de bourse pour faire l'histoire de l'Autriche-Hongrie. Je les dérangeais, je les gênais. Elle s'est dit, mon père m'aimait beaucoup, il était remarié ici, il n'y avait aucune raison... que je ne revienne pas, que je n'aille pas chez lui passer des vacances. Il en était enchanté. Je suis donc revenue pour beaucoup plus longtemps que des vacances. Elle m'a amenée, d'ailleurs, c'était en février, alors j'avais à ce moment-là 8 ans. Et je suis arrivée ici où j'ai trouvé ma belle-mère, la femme de mon père, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui était russe. Et on a, pendant des mois, attendu que ma mère me reprenne. Alors je ne faisais que lire et flâner, et puis finalement il s'est trouvé qu'elle ne me reprendrait pas. Et j'étais extrêmement malheureuse d'être séparée de ma mère. J'avais une belle-mère qui a eu très très rapidement, après mon arrivée, elle a eu une fille qu'elle adorait, elle s'est fixée entièrement sur cette fille, elle a créé une sorte de rivalité à l'égard de mon père avec cette fille, parce que mon père, qui probablement avait déjà eu deux filles, souhaitait ardemment un garçon et ne s'intéressait absolument pas à cette fille. Ma belle-mère voulait compenser ça, etc. Et alors, à ce moment-là, j'ai centré tous mes efforts, à la fois pour créer un lien entre moi et mon père, à la fois parce que j'étais habituée chez ma mère à une vie intellectuelle très intense. Ma mère était quelqu'un, elle écrivait, elle était passionnée par ce qu'elle écrivait et par la littérature. Je me rappelle, elle avait peut-être déjà 88 ans quand, relisant pour la millième fois la correspondance de Flaubert, elle m'avait dit, mais plus je la relis, plus je vois, c'est mon portrait. C'est fou ce qu'on se ressemble. Et alors, pour arriver à recréer peut-être cette atmosphère à laquelle j'étais habituée et que ma marâtre repoussait de toutes ses forces, elle était exactement à l'opposé de ce qu'on peut appeler une intellectuelle. Et peut-être que mon père, ayant beaucoup souffert du départ de ma mère, justement a pensé que cette fois-ci on ne l'y reprendrait plus. Il y avait donc un besoin, n'est-ce pas, d'accéder à la connaissance. Et je travaillais beaucoup, je m'intéressais énormément à ce qu'on faisait en classe. Et alors j'ai eu cette chance d'avoir une maîtresse d'école, deux maîtresses d'école. Et je ne me souviens du nom que de la première, Madame Bernard, qui était une femme. Maintenant, quand je viens d'y repenser, vous voyez, c'est étonnant. Elle m'aimait bien et puis elle voyait que j'étais très malheureuse à la maison. Elle le devinait. Elle avait 4 ou 5 enfants, je ne me rappelle plus. Elle m'emmenait chez elle après la classe. Et souvent, je restais dîner avec ses enfants. Alors je travaillais mes devoirs de français pour l'éblouir et pour éblouir aussi mon père à qui je les lisais. Et alors je me suis énormément centrée à ce moment-là sur les rédactions françaises. Et alors ça venait aussi de l'atmosphère de totale injustice que ma belle-mère faisait régner à la maison. C'était un être extrêmement primitif et très passionné. Et alors cette adoration presque mystique qu'elle avait pour ma sœur, qui ne donnait aucune satisfaction à ce que les enfants considèrent, c'est-à-dire qu'elle était très mauvaise élève, qu'elle avait très mauvais caractère, etc. C'était toujours l'injustice même. C'était le... À la maison régnait l'injustice. Mon père travaillait énormément, partait à 6 heures du matin et revenait mort de fatigue, prenait le train pour aller à Vanves. Oui, il avait fondé une petite fabrique. Il avait essayé de reconstituer ce qu'il avait eu à Ivanovo. Et il revenait le soir mort de fatigue et n'avait pas le temps de s'occuper de tout ce qui s'était passé dans la maison. Ma belle-mère régnait entièrement sur la maison. Et alors cette injustice continuelle qui faisait qu'il n'était pas possible d'obtenir quelque chose par une bonne conduite à la maison. C'était au contraire par des caprices, des mauvaises conduites, n'importe quoi, qu'on était adoré. Le contraste absolu était l'école. Parce qu'à l'école, j'avais cette chance que plus je travaillais, je faisais d'efforts, plus c'était apprécié. Il y avait une sorte d'exactitude absolue. Et alors quand un devoir était bien fait ou une leçon était bien apprise, je voyais que ça recevait exactement sa rémunération juste, n'est-ce pas ? C'était la justice qui régnait dans cette école. Et puis alors après ça, je suis entrée au lycée Fénelon. C'est un souvenir assez pénible. Le lycée Fénelon était assez pénible à cette époque-là. Rien que les bâtiments, quand je passe devant, font l'impression d'une prison. C'était très strict, il fallait des cartes de sortie, etc. Et alors là, j'ai eu encore la chance, pas tout de suite, j'étais tout à fait désolée de quitter cette atmosphère de cette école communale. Dans les grandes classes, à l'époque, au lycée Fénelon, il n'y avait pas de professeur femme capable de préparer au bachot. C'était pendant la guerre de 14-18, Il fallait prendre des professeurs qui venaient nous faire des cours sous la surveillance de surveillantes, qui restaient là à tricoter. Et c'était un professeur, Monsieur Georgin, celui qui a fait les fameuses grammaires latines, etc. Merveilleux professeur. Et l'autre, Monsieur Bétou, qui venait de Louis-le-Grand, je crois, ou de Saint-Louis. Et alors là, a fait irruption dans ce monde, tout de même un monde féminin, tout d'un coup, un contact avec une espèce de liberté d'esprit. On ne faisait plus autant attention aux tâches et aux... la présentation à laquelle étaient habituées à ce moment-là les femmes. Tout était comme de la broderie. Et Monsieur Georgin, ça a été vraiment un véritable événement dans ma vie, dans ma formation, et Monsieur Bétou également. Alors lui, j'avais commencé le latin très tard, parce qu'on n'enseignait pas le latin aux filles. J'ai voulu préparer le bachot, Monsieur Georgin m'a fait rattraper le latin, et j'adorais le latin, et les versions latines, et des véritables conversations qu'après les cours, j'avais sur les auteurs latins avec Monsieur Georgin. On restait dans la cour, il me parlait de tout ça, il me parlait de ses élèves d'Henri IV, nous ne voyons jamais un garçon. C'est monstrueux, cette ségrégation totale. Leurs devoirs, il nous donnait les mêmes choses à faire, il comparait ma version latine avec celle de ses élèves. Là a commencé déjà un esprit de compétition, si on veut, avec les garçons. Et alors, il m'appelait, parce que j'avais la folie, de la crainte terrible de me détacher du texte latin. Impossible de remplacer les mots latins par une expression qui s'en écartera, mais enfin qui est plus élégante. Alors, j'avais commencé une version par « de même que si quelqu'un que », et M. Georgin ne m'a plus jamais appelé que « mademoiselle de même que si quelqu'un que ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle, de même que si quelqu'un que... Et alors, il m'avait dit, rappelez-vous un précepte, souvenez-vous-en, plus on travaille, moins on réussit. Parce que, à force de les travailler, c'était terrible. Et alors, la folie du scrupule. Et par contre, alors, Monsieur Bétou m'a véritablement ouvert l'esprit sur la façon de regarder, d'aborder un texte. C'était vraiment assez extraordinaire. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Et l'année suivante a été une année en philo, était très triste, parce que nous avions, à ce moment-là, il n'y avait plus de professeur homme. Il y avait une demoiselle, une vieille demoiselle, mademoiselle Vaudouer, qui n'avait jamais fait de la grecque de philo, il n'en était pas question, et qui nous dictait le résumé aide-mémoire de Pierre Janet. Alors, quand j'écris très lentement sous la dictée, je préparais d'avance, je le copiais, puis le dictais mot pour mot. Le résumé aide-mémoire, la philosophie paraissait d'un ennui mortel. N'est-ce pas, il y avait toujours une théorie, et puis après ça venait une autre théorie qui détruisait celle-là, et on se disait chaque fois, mais est-il possible, n'est-ce pas, qu'ils étaient si bêtes, qu'ils n'avaient pas compris les arguments qui allait venir après, qui paraissait toujours d'une simplicité extrême. Tout ça paraissait inutile et vide.
J'ai un caractère moi-même assez entier et je supporte assez difficilement quand des gens qui me sont proches, surtout parce que je tiens davantage à eux, ont des opinions contraires aux miennes. C'est une chose qui me fait souffrir. Et alors, je dois faire un effort pour m'empêcher d'être tyrannique. Mais mon père avait exactement à ce point de vue-là le même caractère que moi. Et comme nous avions beaucoup d'estime et d'affection, enfin j'espère qu'il en avait aussi pour moi, en tout cas j'en avais beaucoup pour lui, nous nous heurtions avec une grande souffrance, n'est-ce pas ? Parce qu'il fallait absolument convaincre l'autre, il fallait que l'autre se soumette à quelque chose qui paraissait la vérité même. Et alors c'était assez dramatique et passionné. Je me rappelle une scène terrible qu'il m'avait faite quand j'avais parlé de Proust. Il avait essayé de lire Proust et puis on lui avait dit que Proust était une sorte de dévergondé, enfin, snob et mondain insupportable. On s'est affronté d'une telle manière que j'ai cru que j'allais quitter la maison, enfin, que je ne le reverrais plus. Étant donné que nous étions à peu près de force égale au point de vue obstination et intolérance, personne ne l'emportait sur l'autre. Seulement, on arrivait à un modus vivendi, c'est-à-dire que, par exemple, le nom de Proust n'était plus jamais prononcé. C'était tout, le seul résultat. Il n'était pas possible que je change d'avis sur Proust, je serais morte plutôt, n'est-ce pas ? Et lui, il n'était pas question qu'il revienne à cela, parce qu'il avait jugé une fois pour toutes que Proust était absolument irrecevable et que aimer la littérature de Proust, celle de Gide aussi d'ailleurs, c'était quelque chose vraiment d'inquiétant. Enfin, ma mère, je n'avais pas de rapport passionné comme ça avec elle. Elle était quelqu'un d'extrêmement froid et d'assez indifférent. Enfin, c'est quelqu'un qui n'aurait pas même pu condescendre à des discussions comme celle-là. Elle aurait probablement cédé rapidement par indifférence à ce que l'autre pense. Elle était assez... Elle vivait dans un univers très... assez solitaire, comme ça. Elle était assez centrée sur elle-même, assez narcissique et assez indifférente aux autres. Alors, je ne pense pas... Avec elle, il n'y avait pas de heurts de cet ordre-là. C'était l'opposé de l'être passionné, n'est-ce pas ? Elle se préservait, d'abord. Elle ne s'aurait pas voulu se fatiguer à des discussions qui l'auraient épuisé et qui lui auraient donné mauvaise mine. Elle avait un certain dédain, n'est-ce pas ? Elle se serait dit, bon, ben... Elle n'y comprend rien, et tant pis, en fait. Elle a resté toujours, toujours égale à elle-même, et très isolée, et assez repliée sur elle-même, et assez indifférente. C'était, au fond, n'est-ce pas, la maternité est une chose qui lui avait pesé, elle était exactement l'opposé d'une éducatrice, parce qu'elle ne pouvait pas s'intéresser beaucoup à quelqu'un d'autre. Elle s'intéressait aux gens dans la mesure de ce qu'ils pouvaient lui apporter à elle. Par conséquent, je ne crois pas qu'elle aurait voulu se commettre, en somme, dans des discussions comme celle-là. Je ne crois pas que je puisse beaucoup dans mon enfance. Je ne le crois pas. Ce n'est pas du tout dans des souvenirs d'enfance que je puise ma substance. Il y a Quelquefois, il y a des passages où ça revient. Il y a un passage, par exemple, de l'enfant, qui est d'ailleurs tout à fait inventé dans les bois de banlieue, de la banlieue, dans les tropismes, qui me rappelle simplement, mais dans de toute autre condition, puisque j'y allais déjà avec ma petite sœur, c'était cette impression que donnaient à ce moment-là ces bois un peu pelés de la banlieue. De Meudon ou de Viroflay, que j'avais toujours trouvé extrêmement triste, tout gris. Et alors j'ai décrit ça. J'ai décrit un enfant qui se promène seul avec ses parents dans les bois, justement dans ces bois tristes de la banlieue de Paris. Ça, c'est un souvenir d'enfance que j'ai repris. Mais autrement, il n'en revient pas tellement. Comme j'ai toujours besoin qu'il y ait de ces tropismes pour que ça m'intéresse, je ne les voyais pas probablement à ce moment-là. Mmh.
à la Sorbonne. J'étais de nouveau en compétition. À l'époque, on faisait des devoirs à la Sorbonne. Et il y avait des normaliens qui faisaient des devoirs. Il y a un certain normalien avec qui j'étais constamment en compétition. On rendait les devoirs. Tantôt, c'était lui qui l'emportait. Tantôt, c'était moi. Et moi, je voulais à tout prix l'emporter sur lui. Alors, j'aimais beaucoup travailler ces devoirs. Après, je suis entrée à la faculté de droit, mais ça correspondait au fait que j'aime bien parler. Maintenant, j'aime beaucoup faire des conférences, j'aime bien parler devant un auditoire, qu'on m'écoute, mais tout ce qui était le droit lui-même dégageait un ennui mortel. Je n'ai jamais autant souffert qu'en travaillant le droit financier, puis même tout le droit romain, toutes les matières du droit m'ennuyaient à mourir. Enfin, j'ai quand même fait une licence de droit. Pendant que j'étais à la Sorbonne, je suis restée une année à Oxford. J'ai passé une année merveilleuse à Oxford. Je venais prendre mes inscriptions à la Sorbonne. Je préparais en même temps un billet d'histoire à Oxford, mais surtout, je me passionnais pour les sports. J'ai toujours beaucoup aimé les sports, la montagne, l'alpinisme. Et alors là-bas, il y avait une équipe de hockey. Moi, je courais très vite. Alors, j'aimais beaucoup jouer au hockey. Et puis, il y avait surtout ces merveilleuses... c'était les puntings sur la rivière. Alors, il fallait passer l'examen pour avoir le droit d'aller en punt. Il fallait passer un examen parce qu'on tombait très facilement. C'est une grande... perche un grand bâton avec lequel on dirige ce bateau plat, n'est-ce pas, sur cette admirable petite rivière, la Charwell à Oxford. Et alors, il fallait passer un examen à la piscine avec des chaussures, des grosses chaussures qu'on vous prêtait, une grande jupe à plis, une grande jupe en serge à plis, et qui gonflait dans l'eau. Il fallait nager comme un chien à travers toute cette assez longue piscine pour montrer que même si on tombait dans l'eau, on ne se noierait pas. Et alors après ça, il y avait un examen qu'il fallait passer. Et moi, je dois dire que j'adorais ça. Et puis, j'ai passé aussi l'examen de half-captain, demi-capitaine d'abord, pour les bateaux avec les avirons. Et alors, il fallait faire le feathering pour que ça glisse sur l'eau sans jamais s'enfoncer. J'aimais énormément tous ces sports. Après, j'ai passé l'examen de capitaine. Alors, j'étais très fière de tout ça et j'aimais énormément Oxford. J'aurais voulu rester à ce moment-là en Angleterre, faire une agrégation d'anglais et puis peut-être enseigner en Angleterre. Et enfin, mon père ne voulait pas en entendre parler. Alors, je suis revenue et je me suis inscrite à la faculté de droit. J'ai donc fait la licence de droit et puis j'ai commencé à préparer un doctorat de droit. Et alors, voilà, alors à la faculté de droit, j'ai rencontré mon mari, qui lui avait été malade et pendant 2 ans était resté à la montagne. Je dirais justement que cette rencontre avec Raymond a joué encore un rôle extrêmement important parce que là, cet intérêt que j'avais pour la littérature était entièrement partagé par lui et d'une manière qui était infiniment plus libre justement parce que comme il avait été malade, ou cru malade, et qu'il était resté sur une chaise longue en Suisse, et à lire, à ne pas travailler, il était extrêmement averti, il avait lu énormément, était extrêmement averti de tout ce qui avait été fait en littérature moderne, parce que moi j'étais toujours dans mes études et dans les classiques. Je ne sortais pas des classiques, je connaissais les écrivains classiques russes, et j'ignorais absolument tout de la poésie et de la littérature de l'époque. Et c'est lui qui m'a fait lire, par exemple, Mallarmé, Claudel, Giraudoux à l'époque. Je n'aimais pas du tout. Même Gide. J'étais d'une ignorance tout à fait extraordinaire. Et toutes ces conversations continuelles sur la littérature, sur la peinture que j'ignorais totalement et qu'il aimait énormément, ont fait que quelque chose de nouveau s'est introduit dans ma façon de voir la littérature. C'est toute la littérature et un certain art moderne en peinture qui tout brusquement a fait irruption chez moi parce que je n'avais guère de contact qu'avec des étudiants de l'université qui s'intéressaient absolument pas à cela, ou avec des professeurs, ou avec mon père, qui, bien qu'étant un scientifique, était très féru de littérature, mais il en était resté, lui, à Renan et Anatole France. Gide, c'était pour lui absolument impensable, et Proust encore davantage. Ça m'a tiré hors de ce milieu académique, intellectuellement. Ce n'est pas des gens que je parle, mais façon d'envisager les choses. Et en plus, ces conversations très longues m'ont donné tout d'un coup le désir d'écrire qui, chez moi, avait été complètement écrasé, atrophié. On a terriblement tendance à chercher toujours des traumatismes. Je crois que les trois quarts du temps, c'est tout à fait faux. Et puis, c'est une façon de se porter en écharpe. On est tous des plantes si fragiles qu'à la moindre chose qui vous est arrivée, vous avez été écrasé, détruit, etc. C'est pas du tout une attitude que j'aime avoir à l'égard de moi-même. Mais là, peut-être, en effet, il y a eu quelque chose. Ce n'est pas sûr, mais je voulais imiter ma mère qui écrivait, publiait énormément. C'était pas comme moi. Elle écrivait très rapidement et vivait véritablement de sa plume, comme on dit, écrivait dans toutes sortes des contes pour enfants, des nouvelles, de longs romans avec des meurtres, des histoires d'amour, enfin des choses dans une forme extrêmement drue, des histoires paysannes par exemple, dans un style paysan extrêmement coloré, très riche. Et je voyais mon beau-père écrire des livres d'histoire, j'avais décidé aussi que j'allais écrire. Alors j'avais écrit, rempli un cahier d'un roman, c'était aussi un grand roman d'amour, qui se passait, je me rappelle, dans la montagne, au Caucase. Il y avait un écrivain qui était venu, un ami de ma mère qui était venu voir mes parents. Et ma mère avait dit, mais c'est que Natacha écrit aussi. Alors il a dit, oh, mais viens, apporte-moi ton cahier. Je ne voulais pas, enfin je l'ai apporté. Il l'a ouvert, il l'a feuilleté comme ça, et puis il me l'a rendu d'un air qui m'a paru plein de mépris. Il a dit, avant de commencer à écrire des longs romans, une petite fille doit apprendre l'orthographe. Et alors, j'avais déchiré le cahier, j'étais partie dans ma chambre en état de fureur, et je n'ai jamais plus écrit que les devoirs de français. Peut-être qu'il y a eu là quelque chose, parce que ces devoirs de français, en effet, ceux-là, je pouvais les faire en toute confiance, en pleine bonne conscience, parce qu'ils étaient exigés. On me les demandait, on les appréciait. J'étais certaine qu'on ne les rendrait pas comme ça, puisque là, je faisais très attention et quand on les appréciait, c'était un rachat, c'était merveilleux. Enfin, j'en étais restée enfoncée dans ces sempiternels devoirs. À Oxford, j'avais écrit en anglais un grand devoir aussi sur l'invasion des Vikings, qui avait eu un assez grand succès. Là, j'étais très fière de l'avoir écrit en anglais. Mais c'était toujours des devoirs scolaires. Et c'est peut-être par ce contact avec toute c'est une forme moderne de littérature, tout d'un coup, j'ai eu conscience d'un besoin d'écrire. Et là encore, je ne pouvais pas écrire, parce que ce qui m'arrêtait, c'est que j'étais complètement figée par la correction absolue des devoirs, les transitions, la correction grammaticale, la pureté de la langue à laquelle on nous avait dressé depuis l'école communale. Il fallait s'arracher à tout ça. Je dois dire que là, la lecture de Proust, je crois que Proust, d'ailleurs, ce n'est pas par Raymond que je l'avais lu. J'étais tombée sur Proust avant de l'avoir rencontré au cours de vacances que je passais avec une amie à Chamonix. Et ça avait été assez extraordinaire comme impression. J'avais même pensé que j'aimerais bien écrire un article, un critique là-dessus. Et puis, quelque temps après, j'ai lu Joyce aussi, Ulysse simplement, et puis le portrait d'un artiste. Et alors, pour se sortir de là, de cette espèce de carcan de la langue écrite, c'était très difficile. Et puis, je n'avais pas de substance à moi. Et alors, à ce moment-là, ce qui est intervenu, c'est en somme ce qui était déjà dans l'air à cette époque-là, c'est-à-dire un certain dédain que nous avions pour le roman en roman. N'est-ce pas ? Ce que nous adorions, et que je continue d'ailleurs à aimer énormément, par exemple, c'était Palud de Gide. Ça paraissait une sorte de chef-d'œuvre absolu. ainsi que les opinions de Gide en littérature, les prétextes, les nouveaux prétextes, etc. Moi, j'avais rien. Je n'avais pas de substance à moi. Alors, écrire un roman dans les formes classiques, avec les sentiments habituels, etc., ça m'aurait mortellement ennuyé. Et il s'est passé quelque chose. Je crois que tout contribue finalement à l'activité à laquelle on aboutit dans l'existence. C'est que j'avais essayé de faire la conférence du stage au palais. Et alors là, j'étais entrée dans la langue parlée. Je travaillais ces conférences du stage à mort dans une langue parlée. Tout d'un coup, je m'étais arrachée, et pour la première fois de ma vie, à la langue écrite des devoirs, et j'étais entrée dans la langue parlée. Et à ce moment-là, quand avait paru justement au même moment Le voyage au bout de la nuit de Céline, nous étions absolument frappés par ça. On a dit enfin de l'air qui entre là-dedans. Et c'est seulement quelques années après, déjà j'avais déjà eu 2 enfants, j'attendais la troisième fille, que peut-être me sentant véritablement acculée et sentant que il fallait sauter à pieds joints dans quelque chose qui était pour moi essentiel, que j'ai écrit ces premiers textes de tropisme. Je n'avais tellement peur de moi-même, tellement peur de voir un résultat qui me désespérerait, que je n'osais peut-être pas. Et c'était sous l'effet d'une sorte de révolte et d'émotion très forte que j'ai écrit un premier texte. Et alors Raymond, quand il l'a lu, il faut dire que son avis a toujours été extrêmement important pour moi, parce qu'il y avait une espèce de sensibilité à l'égard des textes littéraires qui fait que je serais peut-être une de ses rares erreurs, parce qu'il ne se trompait, pour ainsi dire, jamais. Il m'arrivait encore quelques fois, moi, de me tromper sur un auteur, mais lui, ça lui arrivait très rarement. Il m'avait dit, mais ça ne ressemble à rien, et c'est bon. Et alors j'avais continué à essayer de trouver ces tropismes, ces mouvements. C'était extrêmement difficile parce qu'il fallait chaque fois repartir à zéro, plonger dans quelque chose et sortir quelque chose qui n'avait pas d'existence visible. Ma mère écrivait, il n'était pas question qu'elle ne travaille pas, déjà à l'époque. Elle avait des amis, eux, qui étaient médecins, qui travaillaient. Autour de moi, dans les milieux d'immigrés russes, la plupart des femmes étaient égales à leur mari, pour le moins, intellectuellement, et soit avaient travaillé, soit... Enfin, il n'était pas question qu'une fille ne travaille pas. Ça paraissait déjà assez anormal. Dans ce milieu, ça veut dire qu'elle était idiote ou malade. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est la question qu'on posait aussi bien aux filles qu'aux garçons. Et alors le fait que le barreau m'ennuyait était une terrible souffrance pour moi, parce que je me disais, j'ai raté mon travail. Alors j'étais prise entre deux feux, parce que je n'aimais pas le droit financier, commercial, civil, et je n'aimais pas non plus les plaidoiries d'assises ou en correctionnel, qui me paraissaient d'un niveau assez bas et s'adresser, enfin, à des émotions, avec des arguments qui me paraissaient, enfin, grossiers. C'est une forme d'éloquence que je n'aimais pas. Alors j'étais prise là entre deux feux, et la maternité ne pouvait pas, à mes yeux, compenser l'absence de véritable vocation professionnelle. La maternité, pour moi, était un peu comme ce qu'elle est pour un homme. Il est ravi d'avoir des enfants, il est très content, il se réalise d'une certaine façon, mais après. Et le reste ? Alors, c'était une, vraiment une grande souffrance. Et les enfants m'ont énormément apporté, autant de souffrance d'ailleurs que de joie. De souffrance qui venait plus de moi que d'elle, parce que c'était des enfants tout à fait charmantes, mais moi j'avais trop cette tendance à travailler les êtres humains, comme, des êtres humains que, dont je me sentais responsable, un peu comme plus tard je travaille mes textes, n'est-ce pas, à les ennuyer, à leur chercher une espèce de perfection que maintenant je me paraît stupide d'avoir essayé, même comme ça, surtout la crainte qu'elle-même ne travaillerait pas, etc., et qu'il y aurait le malheur d'avoir des filles dans ce sens. Pas du tout parce que les filles ne sont pas agréables, au contraire, mais parce que je me disais que je devrais lutter contre toute la pression sociale terrible qui les empêcherait de se réaliser. Ce serait une lutte, et c'est en effet une lutte continuelle, parce que tout pousse les filles à se laisser aller, à s'abandonner complètement. Alors elle-même était déchirée entre ma vision de la vie et la leur, et pas la leur, celle qu'on leur imposait partout, tout autour d'elle, toute cette imagerie, n'est-ce pas, de la réalisation féminine. Alors j'en ai souffert, j'ai dû certainement aussi les faire souffrir tout en les aimant avec une passion extrême, même trop grande, cherchant toujours à les défendre contre tout ce qui pourrait leur arriver. Et c'est une période évidemment très riche de la vie affective, mais ça n'était absolument pas possible que ça remplisse ma vie. Enfin, c'était pour moi, que la vie soit remplie uniquement par ça, était, en ce qui me concerne, était une mutilation terrible. Pour moi, un malheur. Enfin, aux yeux, par exemple, de mon père ou de ses amis, tel qu'il était quand il était plus jeune, puisqu'il a changé après, il a eu un fils, alors à ce moment-là, tout s'est centré sur ce fils, mais pour moi, il était trop tard, j'étais déjà adulte. Au fond, n'est-ce pas, il y aurait eu une espèce de mépris si je ne travaillais pas, si je ne faisais pas quelque chose qui m'intéresse. J'étais très fragile au point de vue de cette réalisation de moi-même. Et là, j'ai eu un soutien absolument indéfectible envers et contre tout qui continue comme ça. Vraiment, j'ai pu supporter toutes les critiques et le dédain et puis l'absence totale de reconnaissance qui a duré pendant tant d'années. Je ne sais pas si dans la solitude, je l'aurais pu le supporter comme ça. Avec une espèce de une certaine indifférence, n'est-ce pas, parce qu'on c'était comme si nous étions deux, mais c'était comme si nous étions mille, n'est-ce pas, il y avait un groupe. Joyce disait, moi j'ai assez de 11 lecteurs, mais moi un lecteur me suffisait. Ça s'est formé à tel degré par des lectures communes, une sensibilité qui se ressemble, que quand je lui lis un passage, avant même qu'on en parle, je sens déjà moi-même, rien que c'est un écho. N'est-ce pas, une espèce de dédoublement, ce qu'il y a dans ce passage. Ce n'est pas du tout que ça doit être, n'est-ce pas, du Shakespeare, mais ce qu'il y a qui n'est pas moi, si on veut, qui n'est pas conforme à ce que moi, je cherche et je veux faire. Ça, c'est ça qui est important, au fond, n'est-ce pas, dans la relecture. Ce qui fait que ma relecture, que j'avais décrite dans Entre la vie et la mort, chaque écrivain se dédouble et se juge, j'ai ma propre relecture et très souvent elle coïncide, presque, enfin toujours pour ainsi dire, elle coïncide, il y a une espèce de d'autre, encore un autre lecteur qui s'ajoute à mon lecteur, à moi, à mon double, si on veut. Ça c'est une extrême importance. Et puis ce fait, n'est-ce pas, qu'il y ait attaché une telle importance depuis le début, depuis mes premiers tropismes, mais même avant, et qu'il est toujours, les enfants se souvenaient d'ailleurs avec une certaine... peut-être, je ne sais pas, enfin, comment est-ce qu'on... Pas rancune, c'est trop fort. Enfin, quand on n'entre pas, elle ne va pas voir maman, elle travaille. Alors, si j'avais été médecin ou ingénieur, n'est-ce pas, ça aurait été légitime qu'on dise à un enfant, surtout à l'époque, c'était plus rare, maman travaille parce qu'elle reçoit des clients. Elle soigne, n'est-ce pas? Mais maman travaille, quand par hasard elles entraient, elles voyaient que j'étais affalée sur mon divan à ne rien faire. Ce qui leur paraissait n'être rien, n'est-ce pas? C'était rien. Eh bien, ça, c'était vraiment un énorme soutien. C'est que pour lui, il comprenait que c'était vraiment un gros travail que je faisais. Et alors, cette chose, maintenant, on en rit, maman travaille, et c'était zéro. C'est-à-dire, je travaillais à ne rien trouver. Alors ça a été vraiment extrêmement important, évidemment, pour moi. Je crois que là, joue dans ces choses-là une sorte d'instinct. N'est-ce pas? On est comme les chats qui cherchent les herbes et que sans même savoir pourquoi, on s'attache, on s'approche de certains êtres par une sorte d'instinct qui fait que ça vous pousse à vous réaliser dans ce que vous vouliez. N'est-ce pas? Je crois que ça... C'est assez important. Ces tropismes, j'ai donc commencé à les écrire, c'était dans l'année 32, et je les écrivais avec une lenteur absolument terrible. Enfin, en 37, je me suis dit, eh bien, il faut leur donner un titre et trouver un éditeur. Impossible d'en trouver un. C'était refusé par tous les éditeurs, par Gallimard, Grasset, tous. Ils trouvaient que c'était hermétique, que ça ne signifiait rien. Paulhan avait trouvé que c'était vulgaire. Le style était vulgaire parce qu'il y avait justement ce style parlé qu'il ne supportait pas. Et il y a eu un jeune éditeur, Robert de Noël, tout à fait charmant du reste, et qui a beaucoup aimé ça et dont les goûts aussi coïncidaient avec les miens. C'était la première fois que j'abordais quelqu'un qui s'occupait de littérature, qui vivait. Alors, ces conversations avec de Noël étaient passionnantes, par une coïncidence extraordinaire. Moi, j'ai toujours pensé qu'un chef-d'œuvre presque absolu, c'était l'Éternel mari de Dostoïevski. Il venait de découvrir Céline. Il m'avait raconté dans les détails comment il avait trouvé le manuscrit de Céline, enveloppé dans des journaux, il n'y avait pas d'adresse, comment il l'a recherché. Céline, à ce moment-là, le persécutait par ses exigences, etc. Et alors il m'avait dit qu'il reçoit énormément de manuscrits. Et sans que je lui en ai parlé, il m'a dit « Je perds la tête par moments. Je ne sais plus ce qui est bon, ce qui est mauvais à force de recevoir tout ça. » Je lui avais dit « C'est vrai, ça doit être terrible de lire comme ça tout ce qu'on vous envoie. » Alors il m'a dit « À peu près tous les ans, je relis l'Éternel Marie de Dostoïevski pour me dire « Ben voilà. » Alors ça m'avait... fait un effet extraordinaire parce que j'avais dit ça, c'est un de des hauts lieux pour moi à l'époque surtout. C'est déjà assez longtemps que je l'ai parlé. Et alors il avait parfaitement compris, senti et goûté ces tropismes. Il n'avait fait aucune remarque sur la nécessité de changer quoi que ce soit, mais il m'avait dit, vous savez, ça m'intéresse. Il avait publié dans la même édition, dans la même collection, et c'est un auteur que j'aime beaucoup, aussi un de mes auteurs, qui était Raymond Queneau, et qui avait publié « Chêne et chien ». C'était dans la même collection. Il m'avait passé « Chêne et chien » et j'avais beaucoup aimé « Chêne et chien » au point que j'en connaissais par cœur. Le début, je naquis au Havre, 1903. Ma mère était mercière et mon père mercier. Il trépignait de joie. Je me rappelle encore maintenant ce début. Et j'avais trouvé ça absolument épatant. Je suis très contente de paraître dans la même collection. Mais après ça, il m'avait dit, il faut l'envoyer à Max Jacob. Je ne connaissais pas grand-chose. Raymond connaissait assez bien l'œuvre de Max Jacob, moi très peu. Alors je lui avais dit, il me conseille de l'envoyer à Max Jacob. Il dit, ben ça c'est vrai, c'est une bonne idée. Je l'avais envoyé à Max Jacob, et puis à Sartre, parce que La Nausée était sorti quelques mois avant. Il m'avait dit aussi envoyer de la Sartre. Il y avait deux seules réponses que j'ai reçues, aussi de Charles Moron, qui était un critique. Je n'ai reçu que trois lettres. Une lettre de Max Jacob, une lettre de Sartre, très gentille, et une lettre de Charles Moron. Et puis la guerre a commencé, ça a paru en février 1939, et il y a eu la guerre. Alors pendant la guerre, j'avais continué à écrire de nouveaux tropismes. Et je les avais donnés, je ne me rappelle plus à quelle date d'ailleurs, à Poulenc. Encore cinq tropismes que j'ai écrits entre les années 30. Ah oui, à partir de 37, ce premier volume était terminé, ce tout petit volume, 60 pages. J'avais continué, alors j'avais écrit encore cinq tropismes comme ça, qui avaient été refusés pour commerce par Poulenc, qui avait trouvé ça ennuyeux. Et je les ai ajoutés dans la réédition de tropismes en 57. Ces cinq textes. Ils avaient paru dans une revue juste avant la guerre. Et après a commencé la guerre et j'ai commencé à écrire Portrait d'un inconnu en me servant de quantités de notes et de passages que j'avais écrits et qui devaient faire partie d'un nouveau volume de tropisme, car à l'époque je ne m'imaginais pas qu'il serait possible d'écrire un roman. Le roman, c'était pour moi l'aberration totale. On ne pouvait plus écrire de romans. Les dialogues romanesques, ça ne valait rien, etc. Enfin, tels qu'ils étaient présentés, avec Dijane, répondit Pierre. Enfin, tout ça, les cadres du roman traditionnel me paraissaient complètement désuets, inutilisables. Et alors, je me disais, on ne peut écrire que prendre des brefs moments et les fixer comme ça dans des rythmes. Et puis, à force de les chercher comme ça, Max Jacob m'avait écrit, mais c'est comme pêcher à la ligne dans l'immense bocal. En effet, j'étais au bord d'un immense bocal, je pêchais à la ligne et je ramenais un poisson, la plupart du temps mort. Enfin, c'était terrible. Je me suis dit, mais il faudrait peut-être reprendre une situation, prendre à la gorge, en somme, le roman dit traditionnel, balzacien. J'admire énormément Balzac, mais je parle de ses suiveurs à notre époque. Reprendre une situation, celle d'un vieil homme, qu'on appelle un avare, avec une fille, pas jeune, la voir avec l'œil d'un moderne, et montrer tous les tropismes qui se développent à l'intérieur de ce qu'on appelle un avare. Il y aurait quelqu'un qui chercherait ça, c'est mon cas, qui le chercherait, il serait toujours en train de chercher derrière l'apparence, il serait considéré comme fou par les autres, des choses que personne ne cherche, que personne ne voit, ce serait le sujet même du livre. Et alors j'avais commencé à écrire Portrait d'un inconnu. Là-dessus, il y a eu la guerre, les persécutions raciales, j'ai été obligée de partir, de quitter Paris, j'ai été recueillie par une femme charmante, Madame Dieudonné, qui avait une pension d'enfant. Les enfants sont restés avec leur père, et moi j'ai habité chez elle, j'étais considérée comme l'institutrice dans cette pension. Il y avait à peine il y avait 4 ou 5 enfants, et j'étais tranquille toute la journée. J'écrivais Portrait d'un inconnu, là. Après, ma fille aînée est restée avec son père à Paris, parce qu'elle préparait son bac, et les deux autres sont venus avec moi, mais j'avais des faux papier. Raymond avait pu, par des camarades de la résistance, me procurer des papiers au nom de Nicole Sauvage, parce que à ce moment-là, l'Algérie était déjà prise, alors j'étais née à Alger. C'était impossible de vérifier. Les enfants avaient l'habitude de ne pas m'appeler maman, elles sont restées là avec moi jusqu'en 1944, où je suis rentrée à Paris. Alors je travaillais avec elles, parce qu'elles étaient inscrites au cours Atmer. Je les faisais travailler et puis j'écrivais Portrait d'un inconnu dans la solitude, le calme le plus total. J'allais voir des expositions, je venais voir des amis. Je me rappelle au Flore, je rencontrais des amis en 1942-1943. Je venais souvent parce que c'était aux environs de Paris, dans la banlieue. Je me rappelle ici allant voir une exposition pas loin d'ici encore. Je venais, je prenais le train et je venais à Paris. Enfin, j'habitais là-bas. Sartre avait voulu organiser des groupes de résistance, chacun amenant 5 autres personnes. C'était des groupes pour intellectuels, c'est-à-dire qu'il fallait trouver en somme le régime futur, quelle serait la société future. après la libération. Il fallait écrire des sortes de devoirs, la situation de l'ouvrier en Allemagne, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est un groupe, n'est-ce pas, qui n'a pas duré longtemps. Cavaillès, qui plus tard, je crois, a été fusillé par les Allemands, en faisait partie. Alfred Perron, après, a été arrêté aussi. Le groupe s'est défait. Sartre n'a pas continué, il a travaillé dans un autre groupe. Mais en tout cas, ce groupe-là, de Sartre, s'est défait à ce moment-là. L'occupation, n'est-ce pas, j'ai scrupule à en parler parce que il y a eu de telles horreurs, une telle quantité de gens ont péri par un miracle extraordinaire, j'ai survécu véritablement, j'ai bénéficié de quelque chose dont j'ai presque honte. Et alors de commencer à parler de mes souffrances sous l'occupation, c'est un peu gênant. L'occupation, c'était l'horreur, enfin, c'était... Que voulez-vous que je dise ? Et surtout, l'horreur a été... enfin, il y a eu ces choses atroces. Enfin, du Veldiv, il y a eu le port des étoiles, il y avait les enfants. Enfin, pourquoi... Ce n'est pas à moi qui n'ai pas souffert de tout ça d'en parler. À la libération, j'ai rencontré Sartre de nouveau, au Flore. Et alors, il m'avait demandé ce que je faisais. Je crois bien d'ailleurs, oui... que je l'avais rencontré par hasard une fois aussi, au cours d'un de mes brefs séjours à Paris. Mais je lui avais dit que j'écrivais un roman et ça l'avait beaucoup intéressé. Et alors je l'ai rencontré, d'abord seul, puis avec Simone de Beauvoir, et j'étais en train de l'écrire. Alors je leur montrais ce que j'étais en train de faire. Et puis après, Sartre a écrit une préface. Il voulait d'abord écrire un article dans Les Temps modernes, puis il a pensé qu'une préface vaudrait mieux. Moi, je ne tenais pas tellement à une préface, j'aurais préféré un article dans Les Temps modernes. C'est quelque chose qui est fixé au livre, me gênait un peu, mais enfin, j'étais encore, étant donné le succès et les lecteurs éventuels de mon livre, c'était déjà très bien d'avoir une préface de Sartre. C'est là que Sartre a appelé ce portrait d'un inconnu un anti-roman. Moi, je considérais que c'était un roman, enfin, c'était un anti. C'était contre le roman traditionnel, mais c'était pour moi du vrai roman qui était du nouveau roman. Contre le roman traditionnel, il était anti, pas anti tout roman, mais anti roman traditionnel. Et même avec cette préface, ça a été refusé par Jean Paulhan, et puis ça a été pris chez Nagel sur l'insistance de Sartre. Puis Nagel l'a gardé 2 ans et puis n'a pas fait paraître. Puis ça a été pris chez Robert Marin. Et puis ça a été détruit, il a vendu 400 exemplaires, il a détruit le reste, il a vendu comme papier. Ça a permis de le rééditer chez Gallimard en 57. J'avais une inébranlable certitude que ce que j'écrivais correspondait d'abord à quelque chose qui avait une espèce de nécessité, d'existence en soi. Entre la forme et le fond, il me semblait qu'il y avait une fusion et que c'était là comme... Nier l'existence de ça, c'est comme dire que ce cendrier n'existe pas. Voilà. C'est toujours l'impression que j'ai eue une fois que mes livres ont été terminés. Je suis en train de corriger les épreuves. Tout fluctue, je ne sais pas ce que c'est, je n'y comprends souvent rien. Il y a des jours où je trouve tout abominable, d'autres jours ça me paraît très bien, etc. À partir du moment où la chose est faite et qu'elle est partie au dehors, je ne peux plus... Elle existe pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Alors si les autres nient son existence, ça n'importe pas tellement, ça ne m'importe pas à ce point-là, ça ne peut pas le détruire. Ça ne pourrait être détruit que si je le relisais moi-même avec des yeux neufs, un jour, ça peut arriver, je ne crois pas que j'aurai jamais ce courage, en me disant ça ne tient pas. Mais c'est détaché de moi et ça a une espèce d'existence. Et alors quand je vois des articles d'esquintage, encore récemment, sur le moment, bien sûr, ça m'est désagréable, mais ça ne change pas un iota de ma propre sensation à l'égard de mon travail. C'est quelque chose, c'est comme si, là, je ne suis pas encore morte, j'existe. Et bien, quelqu'un nierait que ça, c'est mon bras ou ma jambe. Ce n'est même pas une question de qualité, ce n'est pas du tout que j'imagine que ce sont des chefs-d'œuvre immortels. Ça a une espèce d'existence aussi évidente pour moi que ma propre existence à moi. Peut-être qu'un jour ça mourra comme je mourrai, ça, c'est plus que tout à fait possible, mais pour le moment, c'est là comme des choses qui existent, comme des êtres vivants, comme le chat que j'ai à la campagne. C'est comme un organisme vivant qui s'est refermé sur lui-même et qui est là. C'est curieux comme sensation. Sert ce qu'on écrit. Et alors, on vous dira, n'est-ce pas, le fait, mettons, d'élever 3 enfants, le fait d'aimer un autre être, enfin ce qu'on appelle aimer, peut ne pas apporter dans l'écriture elle-même autant qu'une phrase, chez moi en tout cas, banale, entendue quelque part à une table de restaurant voisin. Tout se mêle d'une telle manière que les grandes choses dites très importantes et les petites choses absolument anodines sont sur le même plan. Tout dépend du chemin de ce qu'elles vont éveiller et de ce qu'elles vont faire surgir. N'est-ce pas une chose comme l'amour maternel? Je crois que chez moi, il était extrêmement fort. Eh bien, il ne pourrait faire surgir que des banalités extrêmes, totalement sans aucun intérêt pour ce que j'écris. Pourtant, ça a joué dans ma vie un rôle très important. Par contre, une toute petite chose, venue de quelqu'un qui m'est complètement indifférent, un mouvement quelconque, un rien, quelquefois, voilà, tout mon livre vient du fait que j'ai lu un jour une phrase, « Disent les imbéciles ». Eh bien, ça a joué un rôle infiniment plus important que tous les rapports affectifs possibles et imaginables, qui souvent s'inscrivent dans ce qui est déjà ultra connu, qui... ça suit son cours, qui a son développement ultra étudié en littérature et se conforme même, d'une certaine manière, sans qu'on le veuille, à cette littérature que nous avons ingurgitée. Il y a tout de même un élément social et culturel extrêmement fort dans tous ces sentiments que nous éprouvons. Ils sont terriblement déterminés par tout ce qui nous entoure et par tout ce qu'on nous a inculqué. Alors, ce n'est pas du tout le côté qui peut fructifier, faire fructifier beaucoup ce que je cherche dans mes livres. Par contre, quelque chose comme dans « Vous les entendez », une certaine attitude du père, j'ai choisi volontairement le père parce qu'il est plus vraisemblable, c'est une concession à la vraisemblance, que ce soit le père qui se préoccupe tellement de ses attitudes à l'égard de l'art, par exemple, que la mère qui est censée, etc., et qui en fait est comme ça parce qu'elle a été formée de cette manière-là. Et puis là, je me suis servi énormément de choses, par exemple, qui concernent mes rapports avec mon père, dans lesquels ces rapports étaient toujours d'ordre intellectuel. Les rapports affectifs étaient toujours en dessous et non dits, non exprimés. Ils étaient très forts, mais c'était l'échange intellectuel qui comptait. Une espèce d'égalité, d'échange, qui faisait probablement parce que finalement je lui remplaçais un fils. Et cette passion et cette souffrance épouvantable que je décris chez le père, je la connais un peu, je la connais, mais pas au point où ça existait entre lui et moi, où la moindre divergence. Je me rappelle, ça m'avait frappé au moment où la guerre a été déclarée. Mais il m'a dit « Ah, enfin cette fois-ci, nous sommes entièrement du même côté. » Presque avec une espèce de satisfaction, malgré toute l'horreur. Cette fois-ci, il n'y aura pas de divergence comme il y en avait en politique, il y en avait continuellement en tout. Et je souffrais aussi terriblement qu'il ne soit pas de mon avis. Nous étions intraitables l'un comme l'autre. Ça m'a donc là servi certainement autant que mes rapports avec mes enfants, dans lesquels aussi il y a eu des choses comme ça qui ont joué. C'est un mélange. Mais dès qu'on dit ça, on dira tout de suite, elle a décrit ses rapports avec son père. Ce sera faux également, parce que des quantités de choses ont été ramassées d'un peu partout et mélangées, comme ça se fait toujours. Alors je ne crois pas qu'on puisse dire ça joue un rôle très important, ça non, dans ce genre de choses que j'écris. Si je voulais parler, écrire un livre sur la condition féminine ou sur, je ne sais pas, ce genre de choses, alors là, évidemment, la vie, la biographie jouerait un rôle. Mais en ce qui me concerne, la biographie, c'est rien. Ce sont des événements, c'est, comme disait Valérie, l'écume des choses. C'est pas là que je me place quand j'écris. Pendant des années, j'ai considéré, ça j'aurais jamais dû le faire, j'ai fait quelque chose de stupide. Après, en revoyant quelquefois, j'ai vu à quel point j'étais poussée par un besoin inconscient de trouver une certaine nourriture, dont je n'avais même pas conscience que j'en avais besoin. C'était ainsi dans des amitiés que j'ai eues, où les gens auraient été surpris, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir, quelle amitié peut-elle avoir avec telle ou telle personne qui ne lui ressemble en rien, qui n'a pas les mêmes goûts, n'est-ce pas, qui est un étranger. Eh bien, j'ai vu après, en écrivant, à quel point j'avais puisé dans ces gens-là qui m'étaient en apparence totalement étrangers. Pourquoi j'étais attirée par eux? Eh bien, c'était à cause de ça. Je l'ai compris après, les heures que j'ai perdues en conversation qui pouvaient me paraître après complètement vides et inutiles. C'était des heures finalement qui montent sans que jamais je me dise que cette chose-là peut me servir. Au contraire, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? À quoi perds-tu ton temps? Il s'est trouvé que c'était là que j'ai trouvé des choses qui ont joué un grand rôle après, dans mes tropismes et dans ce que je décrivais. Alors c'est toujours le côté qui n'est pas biographique, si vous voulez, et qui n'est pas dicible, qui a été plus important que l'autre. J'ai eu de grandes amitiés. J'avais une grande amie qui est morte en 61, qui était une amie depuis l'adolescence, qui m'a énormément apporté d'un point de vue pas du tout intellectuel, moral, je dirais. Mais autrement, oui, j'ai des amis très chers et des amis de longue date qui comptent beaucoup pour moi. Et c'est même très attristant de vieillir ensemble, d'une certaine manière. C'est comme dans un couple. On se demande toujours qui partira le premier. Et puis j'aime bien aussi des gens jeunes, et même très jeunes. J'aime beaucoup les gens. Mais je sors peu. Je suis très passive. Point de vue social, je ne reçois pas, je ne sais pas faire l'effort de recevoir. Ça me demanderait un effort énorme. Alors, ça crée une certaine solitude, c'est certain. C'est à la fois, ça a toujours été comme ça, à la fois les gens m'intéressent, j'aime beaucoup le contact avec les gens, et en même temps je me fatigue très rapidement. Alors c'est très difficile, c'est assez incompatible. Je ne peux pas mener à la fois une vie sociale assez intense et en même temps avoir tous les avantages de la solitude, n'est-ce pas, d'un certain retrait. C'est très difficile à concilier. Et je crois que tout instinctivement, et même par un manque de force, je me suis enfoncé plutôt dans le retrait. Je crois que la méconnaissance a un côté extrêmement stimulant. Extrêmement stimulant. Ça vous met toujours dans cet état de force d'attaque où doivent être, où sont les débutants. Le débutant, n'est-ce pas, c'est à ce moment-là, il a la force d'attaque du nouveau-né. Quand il jaillit du ventre de sa mère, il est vraiment dans la solitude totale et il doit faire quelque chose, projeter au dehors quelque chose que personne ne lui demande, dont probablement personne ne voudra, qui n'est qu'à lui et une chose à laquelle personne ne comprendra rien. Alors ça vous remet dans cet état d'une certaine agressivité. Il y a tout récemment, je lisais un article absolument éhonté, en fait. Éhonté, malhonnête. Eh bien, sur le moment j'ai ragé et puis ça m'a fait du bien. Je corrigeais mes épreuves, elles ont pris une espèce d'éclat qu'elles n'avaient pas. N'est-ce pas ? Vous êtes là, vous attaquez. Et c'est très bon. Je crois que ça doit être assez terrible d'avoir une de ces réputations inattaquables. Je ne sais pas comment on fait dans ce cas-là. Je ne connais pas du tout cette situation. Il y a ces gens auxquels on ne touche pas. C'est le génie reconnu, n'est-ce pas ? Absolu, personne n'ose toucher. Je ne sais pas comment il se débrouille. Rilke déjà disait, quand tu deviendras célèbre, change de nom. Dans ses lettres à un jeune poète. Je trouve que c'est tout à fait vrai. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, ce problème ne s'est jamais posé. Parce que ça continue. Et en quoi est-ce qu'elle existe ? Elle existe dans le fait qu'on me demande de faire des conférences à l'étranger sur ce que j'écris. Mais je les fais bien, ces conférences, pour ce que je me suis inscrite au barreau, parce que j'aime bien parler aux étudiants. Elles ne se manifestent pas dans des grosses ventes, seulement les livres en poche se vendent pas mal, mais les autres livres sont toujours des livres difficiles, qui ne me rapportent pas beaucoup d'argent. En quoi est-ce que se manifeste cette célébrité ? Elle ne me met absolument pas à l'abri des critiques, je n'ai pas su me créer un cénacle des admirateurs qui me le manifestent, c'est une chose si je l'avais ça me serait pénible, enfin je n'ai pas beaucoup de soutien autour de moi, je ne vois pas, alors c'est une chose creuse, n'est-ce pas, on me dit cette célébrité, mais voilà une journée qui va se passer et puis il y en aura une autre et puis il y aura la semaine et le mois et je voudrais bien savoir où elle est, en quoi elle consiste. Il faut alors prendre un certain recul maintenant, et je dois prendre un recul, et puis je me dis, ben voilà, peut-être dans le fait qu'on me demande de parler de moi, que j'aurai le toupet, en somme, de le proposer à des auditeurs, que ça n'intéresse même pas, que je m'étale, enfin, sous leurs yeux de cette manière-là, c'est peut-être ça. C'est une certaine notoriété, parce qu'autrement, avant, bien sûr, quand les tropismes ont paru, personne ne s'intéressait à ma vie, mais enfin, ce n'est rien. Ça. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien.
C'était Biographie, une émission de Viviane Forester avec Nathalie Sarraute, diffusée pour la première fois le 4 février 1977.